Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes donc sur Radio Zinzinex. Et aujourd'hui, c'est donc le 33e numéro de Mare Nostrum. Ce 33e numéro va se dérouler donc avec Fabrice, bien sûr, qui est là pour la technique, et indispensable pour la technique, et puis moi-même, bon, qui assure la préparation et la présentation. Alors aujourd'hui, donc, ce 33e numéro va faire le point sur certaines questions d'actualité de la Turquie. On a déjà fait une émission il y a quelques semaines, et celle-ci fait suite, donc c'est actualité de la Turquie, mais cette suite va être essentiellement consacrée à la politique extérieure, c'est-à-dire à la politique internationale, la politique étrangère de la Turquie, alors que la précédente était plutôt consacrée à la politique intérieure et en particulier aux institutions sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan. Donc pour ce faire, on reçoit aujourd'hui donc le même spécialiste, c'est donc Gérard Grob. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes donc spécialiste de l'histoire de la Turquie contemporaine. Vous êtes chercheur associé à l'IREMAM CNRS. L'IREMAM, c'est l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, qui est donc un laboratoire de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-Marseille Université. Et nous sommes bien sûr partenaires avec cette structure. Il faut donc le signaler, puisque ce partenariat nous fournit quantité de chercheurs pour assouvir notre curiosité dans le domaine de l'histoire et d'autres sciences humaines de la Méditerranée. Alors donc, politique étrangère de la Turquie, Gérard Grob, on va peut-être commencer par faire un peu un petit rappel, le point sur cette politique extérieure. La Turquie fait donc partie de l'OTAN, on va peut-être partir de là.
Oui, on peut partir de là, mais tout d'abord, merci de votre invitation et merci de votre accueil. Oui, on peut partir de là et on peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez compliquée où la Turquie semble peiner à trouver exactement ou à aligner une stratégie cohérente. Alors bien sûr, la situation est plombée par le conflit syrien. Mais quand on dit le conflit syrien, on dit la question kurde, enfin en tout cas la région kurde du nord de la Syrie, et pas que celle-ci. On parle de migration et on parle aussi d'un partenariat avec la Syrie, avec la Russie, pardon. Donc cette situation, cette diplomatie actuellement semble de plus en plus offensive. On entend de plus en plus des imprécations, des interpellations de la part des diplomates de la Turquie, et on a l'impression que dans cette opposition, disons, quasi générale à l'Occident, la Turquie est obligée de se replier aujourd'hui dans une alliance de plus en plus étroite et contraignante autour de la Russie. C'est-à-dire que le partenariat s'est réduit de plus en plus à un échange avec la Russie et à une élaboration d'une stratégie ou de plusieurs stratégies ou de plusieurs séquences stratégiques qui sont liées à la Russie. Donc si vous voulez, au départ, il y avait une diplomatie traditionnelle de la part de la Turquie qui a été finalement bousculée et inversée et qui est devenue assez problématique à l'égard de ses anciens partenaires qui étaient des alliés, mais que, ou bien des impératifs d'indépendance, des idées de souveraineté, ont renversé, disons, des rapports qui ont été renversés. Et on a l'impression, donc, maintenant que il y a aussi, pour la part de la Turquie, la difficulté à se positionner par rapport à des alliés comme les États-Unis, qui sont encore pourtant importants et en Turquie, dans la situation de la Syrie du Nord et de cette région kurde, mais aussi des partenaires comme la France, des partenaires comme l'Allemagne, avec lesquels les relations économiques sont quand même encore très très importante et qu'on ne peut pas, que la Turquie ne peut pas négliger. Une dernière chose à dire peut-être aussi sur la politique étrangère, c'est que plus la situation devient difficile à l'intérieur de la Turquie, plus il y a de tensions, plus la politique étrangère est utilisée aussi à des buts intérieurs. C'est-à-dire plus elle est aussi un discours que l'on sert aux électeurs, étant entendu que en Turquie, il y a ces dernières années pratiquement une élection par an. Donc que l'on est toujours en campagne électorale et que le gouvernement, le régime, a à se justifier, ou en tout cas à se positionner par rapport à un public intérieur. Donc vous avez aussi cette utilisation de la politique intérieure qui sert à des buts intérieurs.
Oui, c'est un peu le lien avec l'émission que nous avions fait la dernière fois ensemble, oui, sur la politique intérieure.
Voilà. Donc si vous voulez, si on prend un peu les séquences qui sont utiles, à mon avis, pour suivre un peu la politique étrangère, j'aurais envie de vous parler d'abord des alliances anciennes de la Turquie et de situer un peu la Turquie dans cet environnement qui date quand même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et pratiquement jusqu'à la période AKP, hein, qui a commencé en 2002. Ensuite, je voudrais vous parler d'un théoricien qui a été ministre des Affaires, qui a d'abord été un conseiller, qui est ensuite ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre, et qui a théorisé, disons, un nouveau rôle, qui a proposé un nouveau paradigme sur la position de la Turquie dans son environnement proche-oriental, et qui a relativement bien influencé les options que l'AKP a ensuite suivies. Mais cela a eu un temps, cette inspiration, disons, de pensée diplomatique a été complètement bousculée par la guerre syrienne et par l'affaire syrienne. Et dans le scénario syrien, la Turquie a ensuite été dans plusieurs rôles qu'elle a tenus, qui étaient beaucoup liés à un déroulé événementiel auquel il fallait réagir. Et ça, Erdogan est très doué pour réagir rapidement, être très réactif, mais en même temps, on perd un fil. Et donc, on se retrouve avec une ligne suivie en Syrie qui peine à montrer sa cohérence et qui est de plus en plus liée, disons, aux événements qui se déroulent et qui sont assez souvent imprévisibles. Et tout ça débouche sur la nécessité d'un lien très étroit avec la Russie, qui n'est pas simple, qui est accidenté, mais qui rend ou donne à la Russie un poids de plus en plus important, avec, je dirais, à la clé, la question de savoir qui est le gagnant. Est-ce que Erdogan mène effectivement le jeu, ou bien est-ce qu'il s'inscrit dans un jeu qui, au contraire, définit plus largement par la Russie, par Poutine, qui a d'autres capacité d'intervention, d'autres aires de jeu, et qui a l'air de mener un peu plus les choses que Erdogan.
Oui, finalement, moi, ce qui me frappe, c'est que la Turquie est quand même sortie du deuxième conflit mondial avec une situation, une position bien meilleure, bien évidemment, qu'au sortir du premier conflit mondial, et que avec un panel de relations internationales, que ce soit avec les États-Unis, avec les partenaires de l'OTAN, avec l'Europe, etc., donc un panel très large. Et puis il arrive aujourd'hui avec quelque chose de beaucoup, beaucoup plus étroit. Donc on pourrait presque dire qu'il y a là un recul important de la position de la Turquie, malgré ce qu'on en dit, par rapport à la pré-deuxième guerre mondiale.
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de recul, parce qu'à ce moment-là, il faut déterminer les critères par rapport à on parle de recul. Mais effectivement, il y a un changement très important. Mais le changement, il est assez logique lorsqu'on parle de la fin de la guerre froide. C'est-à-dire, le premier schéma, c'était un schéma de guerre froide. Et effectivement, il se trouve que la Turquie avait une position géographique qui intéressait énormément l'Occident, parce qu'elle était frontalière avec la Russie. C'était le seul pays frontalier du dispositif, et qu'on avait besoin effectivement de se l'attacher, autant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, que d'un point de vue des valeurs, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, dans cette logique, vous avez l'OTAN, vous avez le plan Marshall d'abord, vous avez l'OTAN, vous avez l'OCDE, puis vous avez les contacts avec l'Union européenne, et puis vous avez, après tout le cheminement depuis 1963, par contre, un accord d'association qui n'en finit pas de ne pas finir et qui n'a débouché effectivement sur rien pour l'instant. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que cette relation n'a pas été toujours facile et qu'il y a eu pas mal d'anicroches, et principalement avec les États-Unis. Pour résumer, enfin, je dirais, bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais je dirais que la Turquie, elle, parce qu'elle est frontalière avec la Russie, a la position et a la conception de sa place dans l'Alliance à partir d'une proximité, et donc d'un danger de proximité. Et à partir du moment où le chef de file, c'est-à-dire les États-Unis, ont peu à peu pris distance et qu'on est rentré beaucoup plus dans une riposte graduée, dans une évaluation beaucoup plus souple des rapports et ainsi de suite, où le danger donc s'amenuisait, les États-Unis ont pris plus de légèreté, disons, vis-à-vis de la Russie, plus de légèreté vis-à-vis de la Turquie, mais la Turquie, elle restait toujours dans sa logique de poste avancé, frontalier et donc risqué. Et là, ça a beaucoup tiraillé, et le principal tiraillement était les fusées de Cuba, était la crise cubaine, où un dispositif se rapprochant trop près des États-Unis, à partir du moment où on le démantelait, avait un pendant, c'est-à-dire qu'on démantelait les fusées américaines qui étaient en position en Turquie. Et la Turquie a eu énormément de mal à accepter la chose parce qu'elle se trouvait déshabillée. Oui. D'un seul coup, elle n'était plus protégée. Et là, il y a eu des tensions. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce de rapport un peu compliqué aux États-Unis. Mais malgré tout ça, la Turquie n'avait pas du tout le choix d'en sortir. Donc, elle était obligée, elle pouvait critiquer tout ce qu'elle voulait, mais elle était obligée d'en passer par ce que voulait la politique américaine. Et si vous voulez, l'autre pan de cette alliance, c'est le lien avec l'Allemagne. C'est-à-dire que là où l'influence de la Russie, des États-Unis devenait de plus en plus problématique, c'est l'Allemagne qui a repris le flambeau ou le relais. Parce que l'Allemagne avait un intérêt, c'était l'autre pays qui était frontalier de l'ensemble soviétique ou du pacte de Varsovie. Donc, si vous voulez, il y avait une espèce de symétrie, partant de l'idée que s'il y avait un conflit, comme on était de plus en plus dans l'idée d'un conflit classique, eh bien, il n'y avait que deux endroits où il pouvait éclater, c'était ou l'Allemagne ou la Turquie. La Turquie voulait bien entendu que ça préférait que ça éclate en Allemagne, mais l'Allemagne et tous les partenaires européens aurait préféré que ça éclate en Turquie. Donc, si vous voulez, vous avez là une sollicitude de la part de l'Allemagne qui fait qu'elle a toujours aidé économiquement, stratégiquement et politiquement toujours la Turquie, en plus de sa migration, en plus de ses liens économiques et ainsi de suite. Mais il y a toujours eu effectivement un lien que la France n'a jamais eu. La France n'était pas du tout inquiétée. Nous, on avait la bombe, on répondait différemment. On n'avait pas du tout ce besoin de l'alliance américaine qu'avait la Turquie et qu'avait l'Allemagne, et ce souci qu'ils partageaient tous les deux. Donc, si vous voulez, ce schéma était relativement stable, malgré toutes les anicroches, mais au moment où il y a la fin de l'Union soviétique, 1990-91, et ben, tout ce dispositif tombe.
Ben oui, c'est ça. La rupture de cet ensemble issu de la guerre, c'est à ce moment-là. On va écouter un petit peu de musique, si vous le voulez bien. Alors, Güney Marlen, qui est un chanteur très très connu en Turquie.
İstanbul'da denize giremeyen, bir nesiliz bisiklete binemeyen, bir de ayrıldık şimdi senden, yazlar inadına bitiyor hemen. Çizerdik tebeşirle toplar dönerdi direkten. Sus.
artık, sus artık. Başım çatlıyor gülmemekten. Biz bizi kaybettik ya zaten. Sus artık, sus artık. Küçük kavgaları büyütürken sen beni severdin eskiden.
Gérard Groc, nous sommes sur la politique étrangère de la Turquie avec vous et nous sommes arrivés donc dans les années 90-91, une rupture importante, on peut dire dans la politique étrangère mondiale, dans le contexte international, qui marque également la Turquie.
Oui, ça marque la Turquie parce que si vous voulez, 91, c'est donc effectivement l'effondrement de l'Union soviétique, mais ça veut dire aussi que pour la Turquie... C'est d'abord la diminution de l'intérêt qu'elle pouvait avoir. Donc, elle intéresse beaucoup moins Washington, ou en tout cas, on lui fait beaucoup moins de concessions. Et puis, c'est l'année aussi, 89, où elle est refusée dans sa candidature à l'Union européenne. Donc, ça veut dire que Washington et Bruxelles, qui étaient jusqu'à présent les centres de décision de première importance pour ses choix et pour ses options, deviennent de moins en moins importants. Et il y a effectivement un changement de conception, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la Turquie va essayer, comme elle a une puissance économique qui est en train de croître, elle va essayer de jouer sur la proximité. Donc elle va s'intéresser à la mer Noire, elle va s'intéresser à l'Europe de l'Est, et elle va s'intéresser aussi... aux républiques turques de l'Asie centrale qui sont de plus en plus, enfin qui sont indépendantes, qui deviennent indépendantes.
Azerbaïdjan,
mais plus loin aussi, Turkménistan, dont on sait qu'elles sont des producteurs et des détenteurs de gaz, de pétrole et ainsi de suite, et qu'il suffirait tout simplement de savoir bien drainer. En fait, la Turquie se positionne comme position intermédiaire entre un monde occidental et un monde oriental, entre un monde musulman et un monde chrétien, entre un monde en développement qui recherche des débouchés mais qui a beaucoup de capacités, et un marché qui, lui, a besoin de recevoir des produits. Donc, si vous voulez, il y a une nouvelle conception d'intermédiaire. Et la Turquie propose, enfin, les diplomates, propose un concept nouveau qui est le fait que la Turquie serait non plus un pays européen occidental, mais un pays eurasiatique.
Donc, oui, c'est une nuance importante.
C'est une nuance importante. Oui. Et à partir de ce moment-là, on va s'intéresser de plus en plus donc à la région. Et on va faire des pactes régionaux. Certains vont marcher, d'autres ne vont pas marcher. Mais par exemple, on assiste dans les années 90 à un pacte qui est assez... bizarre, c'est par exemple les liens avec Israël, où la Turquie, 93 et 96, se rapproche de plus en plus d'Israël, ce qui veut dire qu'elle se sépare des États arabes musulmans, avec lesquels pourtant elle essayait de frayer depuis quelques décennies, et c'est une option qui est vraiment très clair et un engagement avec Israël, ça ne peut pas se camoufler, je veux dire.
Oui.
Voilà. Donc là, on est tout à fait dans une idée de proximité avec l'idée de deux puissances militaires liées aux Occidentaux qui ont la capacité pratiquement de faire la discipline au niveau du Proche-Orient. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais...
C'était l'espoir.
C'était l'espoir. D'autant que les autres membres du Proche-Orient étaient quand même assez turbulents. Il y avait d'abord la guerre entre l'Irak et l'Iran. Il y a eu ensuite l'invasion du Koweït. Donc, si vous voulez, la Turquie était appelée aussi, non plus en tant que pays de l'OTAN, à regarder vers le nord, vers l'URSS ou ce qu'il en restait, mais à regarder vers le sud et vers le Proche-Orient. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, vous avez un décalage qui se fait de son rôle de l'OTAN. Elle reste encore dans l'OTAN, mais de plus en plus, elle s'intéresse donc à la proximité. Nous arrivons donc maintenant... Donc ça, c'est le cadre général. Et lorsque la Képé arrive au pouvoir, c'est-à-dire en 2002, il va proposer peu à peu une nouvelle diplomatie. Et donc, vous mentionniez tout à l'heure le nom de Ahmed Davutoğlu, qui effectivement a été un conseiller puis un ministre, et c'est quelqu'un qui effectivement a théorisé un peu un renversement de paradigme, c'est-à-dire qu'il a joué, bien sûr, sur cette proximité, mais ce qui l'a amené, et qui convenait bien entendu à Erdogan, c'était l'idée de récupération de la souveraineté, de l'autonomie de la décision, et l'idée un peu de l'émergence d'une puissance moyenne. C'est-à-dire que son idée était de dire que, intervenant dans un périmètre tellement sensible, tellement délicat, et aux conséquences si importantes au niveau mondial, même si on restait local, on finissait bien par avoir un rôle international.
Oui, par exister.
Voilà, par exister et à être un des éléments moteurs d'un nouvel équilibre, disons. Donc il y avait cette idée, effectivement, d'une ère d'intervention qui était d'un seul coup libérée par la fin de la guerre froide, et qui était une ère où, et ça a été défini comme ça par Davutoğlu, où il y avait des acteurs qui étaient complètement inconscients, Iran, Irak, qui faisaient n'importe quoi, et auprès desquels il était important d'imposer une espèce de discipline. Et l'idée de Davutoğlu, ça a été de monter une espèce d'ère d'émergence économique, de prévoir des associations, de prévoir des combinaisons de projets industriels et d'essayer de transformer cette région proche-orientale musulmane en un candidat, disons, à la prospérité. Et là-dessus, la Turquie présentait aussi l'intérêt d'avoir un pied dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle avait un pied dans le marché européen et pouvait d'abord se servir du modèle européen. C'était une époque où Erdogan a beaucoup parlé de Schengen, a beaucoup parlé de cette idée de communauté européenne, de communauté économique, ou d'espace économique ouvert. Ça l'intéressait beaucoup. Et arriver à monter ça au niveau du Proche-Orient, pacifier le Proche-Orient, et peu à peu l'amener à avoir une logique industrieuse, de plus en plus productiviste, et via la Turquie, ou sous les conseils de la Turquie, de devenir de plus en plus une région intéressante au niveau du commerce mondial, étant entendu que la Turquie, elle continue à le dire, elle a autour d'elle à peu près 80% des ressources de pétrole et de gaz. Oui. Donc il suffit de les mobiliser, ça ira de soi. Donc, si vous voulez, ça a été un peu le protocole mis en place par Davutoğlu, avec une tendance de plus en plus musulmane, proche-orientale musulmane, que l'on a vu surtout à la rupture qu'il y a eu avec Israël après 2010. Mmh. Alors, il faut dire que, Davutoğlu voyait assez large. C'est-à-dire que Davutoğlu, c'est un universitaire anglophone qui avait ses entrées dans tout un tas de think tanks américains, européens, et ainsi de suite. Donc il proposait son schéma stratégique. Il avait quelques formules qui ont intéressé tout le monde, c'est-à-dire zéro problème avec le voisin, la profondeur stratégique, enfin bon, il y avait quelques vocables qui ont intrigué et qui ont intéressé. Mais surtout, il fallait aussi rompre avec la présence américaine liée à Bush et à son intervention en Irak. Donc on a beaucoup compté avec Obama. Et Obama ayant été élu en 2008 et donc prenant les rênes du gouvernement en 2009, c'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, qu'on a développé de plus en plus cette espèce de capacité de la Turquie à avoir des partenariats locaux et à servir un peu d'entre-gens. Et l'entre-gens qui a été tenté à cette époque-là, qui n'a pas vraiment réussi, c'était de soutenir, par exemple, le nucléaire iranien. La Turquie est devenue un ferme soutien avec le Brésil du nucléaire iranien. Et comme à ce moment-là, la Turquie avait un siège au Conseil de sécurité, on lui en avait offert un temporaire, bien entendu, elle intervenait et elle a même utilisé le veto à un moment donné. Donc, si vous voulez, il y avait une position de plus en plus importante de la Turquie. Si vous mettez sur ces entrefaits ou sur cette révision stratégique, si vous mettez les printemps arabes et le fait qu'on parle de plus en plus de pays d'ouverture des pays musulmans, d'un nouveau cours démocratique, d'une plus grande expression populaire et ainsi de suite, la Turquie pouvait fonctionner, pouvait offrir un modèle, et la KP pouvait dire « Voyez ce que nous sommes et ce que nous avons réussi à faire ».
Oui, ça faisait finalement un modèle assez complet.
C'était le modèle turc.
Absolument.
Et on s'est mis à parler du modèle turc de plus en plus.
On va écouter un peu de musique avec, là aussi, un chanteur très connu en Turquie qui s'appelle Altin Gun, qui chante « Kayama Kamin Kizlari », c'est-à-dire « La fille du gouverneur ». C'est une chanson encore d'amour, bien sûr. Gérard Grok, la politique étrangère de la Turquie. Nous parlions donc de la formule Davutoğlu pour les relations internationales, la construction d'une puissance moyenne. Et cette puissance moyenne s'intéresse aux États proches, en particulier les printemps arabes. Alors, ces printemps arabes, quel rôle jouent-ils dans cette espèce de service rendu par la Turquie au monde, là, comme on a l'impression qu'elle va apparaître?
Alors, il y a un service, il y a un côté très positif au départ, et puis il va y avoir un renversement. C'est-à-dire, le côté très positif, c'est effectivement de représenter un pouvoir qui est en même temps islamiste et en même temps démocratique, jouant sur les élections, jouant sur les représentations, et ouvert sur l'Occident, sur des notions comme la laïcité, sur les notions de la pluralité sociale. Donc, si vous voulez, ça c'est un discours qui va être au début entendu et de la part des pays arabes, principalement au début de la Tunisie.
Oui, bien sûr.
Et surtout le groupe Ennahda, qui était en même temps islamiste, mais qui a travaillé un peu la représentation populaire. mais aussi très entendu de la part des partenaires occidentaux. C'est-à-dire que les Américains ont beaucoup disserté sur les propositions, sur le modèle de Davutoğlu, sur ses capacités, sur ce que ça offrait, et sur le fait qu'il y avait là, peut-être, la possibilité de canaliser une espèce de d'explosion des pays arabes qu'on ne savait pas traiter, quoi, qui a surpris tout le monde, y compris les pays arabes même, et dont on ne savait pas trop quoi faire. Et on s'est dit, là, il y a une possibilité de cohérence, de mise en cohérence à partir du modèle turc. En fait, les choses ne vont pas du tout se passer comme ça, parce que ça va éclater en même temps au Yémen, ça va éclater en Égypte, ça va éclater en Libye, ça va éclater en Tunisie. Et la Turquie va quand même composer sa réponse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir toujours la même réponse. Et on va voir pointer certains intérêts qui ne sont plus du tout, qui ne relèvent plus de l'idéologie d'un modèle turc, mais qui étaient beaucoup plus sur une gestion d'une alliance. Et le grand événement qui va jouer, qui aurait donné la possibilité d'un succès au modèle turc, c'est l'élection de Morsi en Égypte et l'accession au pouvoir donc des frères musulmans, qui, bien entendu, étaient dans une alliance très proche avec la Turquie, mais ça n'a pas marché. Et là, ça a été un coup très dur pour la Turquie, parce qu'en 2013, non seulement les militaires revenaient en Égypte, mais en plus, le coup d'État des militaires était approuvé par les alliés occidentaux, par l'Arabie saoudite, donc par tout un faisceau de gens, y compris des pays musulmans, avec lesquels la Turquie aurait pensé pouvoir collaborer. Et là, tout s'est retourné contre
situation la Turquie. Embarrassante.
Situation embarrassante. Si vous mettez au milieu de tout ça la question syrienne, qui éclate en 2011, là, vous avez un autre scénario aussi, qui va être renversant. Et le scénario syrien, c'est, pour reprendre ce que l'on disait tout à l'heure de la diplomatie de Davutoğlu, les idées d'association, de développement conjoint avec la Syrie et d'autres pays du Proche-Orient, mais ça commençait d'abord à ses frontières, et la Syrie était pratiquement les premières frontières, on ne parlait pas d'Irak, mais la Syrie était les premières frontières avec laquelle on allait collaborer. Il y a tout un château de cartes qui s'effondre avec la position crispée et répressive de Bachar al-Assad dès la fin de 2011 contre sa population. Et là, curieusement, alors que les rapports avaient été noués et étaient pleins de promesses avec la Syrie, Davutoğlu, qui est ministre des Affaires étrangères, renverse la position de la Turquie et fait en sorte que la Turquie se mette du côté des mouvements populaires. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui avait été un peu mis en place va se transformer dans une espèce de haine exprimée à l'égard de Bachar el-Assad, du dictateur, de la personne qui réprime sa population, qui n'hésite pas à massacrer sa population. Et là, on va avoir donc toute cette espèce de travail fait par la Turquie vers un Proche-Orient ouvert, ami, prospère, etc., se casser par rapport au déclenchement de la question syrienne.
Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin, alors ?
Qui ?
Davutoğlu. Cette dernière option sur la Syrie.
C'est-à-dire que là, il a jugé utile, il a pensé qu'effectivement, au niveau international, il était beaucoup plus intéressant de miser sur la démocratisation des pays arabes, qui ne s'est pas effectivement passé, disons que il pourrait y avoir un autre calcul. C'est que Bachar al-Assad est minoritaire. Les Alaouites sont minoritaires en Syrie. Donc le renversement de Bachar al-Assad aurait ramené des sunnites et aurait ramené les frères musulmans. Donc, il se peut fort bien aussi que derrière la carte de la démocratisation de la Syrie, il y a eu la carte des frères musulmans qui a pensé être jouée et qui aurait été automatique, et disons la voie royale pour la Turquie, si jamais Bachar était tombé.
Oui.
Mais Bachar, Bachar n'est pas tombé. Mais on a pensé que Bachar allait tomber aussi parce que les États-Unis étaient contre Bachar, parce que l'Europe était contre Bachar, parce qu'il y avait des discours va-t-en-guerre de la part des alliés. Donc là, il y avait tout un dispositif OTAN qui se mettait en place contre la Syrie, enfin contre
contre
régime,
Bachar, ouais.
Contre Bachar el-Assad. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du gaz sarin, mais les Russes ont réussi à retourner la diplomatie, c'est-à-dire que l'opération armée qui était prévue a été stoppée, et contre l'engagement de la Syrie de détruire tout son stock, ce qu'elle n'a pas fait bien entendu, de détruire tout son stock de gaz de combat, qui a sauvé le régime. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, au niveau de la Syrie, il y a plusieurs scénarios. La Turquie se positionne dans plusieurs scénarios, et c'est ça qui va commencer à un peu casser la cohérence. Donc on avait dit, le premier scénario, c'était la position, le soutien à Bachar el-Assad, hein, quand on était encore amitié, mais en le conseillant de devoir quand même être clément avec sa population et d'entendre les appels du peuple. Deuxième position, pourfendeur du régime de Bachar el-Assad. Mais les choses vont aussi se faire en l'espoir que les Occidentaux vont intervenir militairement, ce qu'ils n'en feront pas. Troisième position, et là les choses commencent à devenir sérieuses, c'est le schéma Rojava qui se met en place en Syrie du Nord. Rojava, c'est-à-dire le fait qu'il y a un espace dans la Syrie du Nord qui n'est plus contrôlé par Bachar el-Assad et qui est peu à peu pris en main par des unités mixtes, mais souvent dirigées par des forces kurdes, voire par le PKK. Et il y a tout un raisonnement qui est mené par le PKK. Et là où les choses deviennent très graves, c'est une opération de Kobané à l'automne 2014, où l'État islamique attaque une ville qui est située à 3-4 kilomètres de la frontière turque. Donc toutes les caméras sont fixées du côté turc. On voit la ville se faire massacrer. La Turquie ne bouge pas. Erdogan ne bouge pas. Et là, on apprend que les États-Unis vont aider les forces kurdes, vont bombarder, et qu'en fait, les négociations ou les liens existent depuis déjà au moins 2 ans. Et là, la Turquie se retrouve d'un seul coup face à ce problème kurde qui risque de contaminer absolument toute la région et d'arriver à déboucher sur un État kurde. Syrie du Nord, Irak du Nord. Alors, il y a bien un Kurdistan en Irak du Nord, mais il y a aussi une zone qui est complètement contrôlée par le PKK, parce que le Kurdistan irakien ne contrôle, celui de Barzani ne contrôle absolument pas tout, et il ne contrôle pas Mossoul, principalement, qui est tombé, et la Turquie. Donc on a peur qu'effectivement il y ait une contamination et que là il y ait le germe d'un Kurdistan. Et ça, c'est la troisième attitude.
Gros danger pour la Turquie.
Fixation sur Erdogan et amorce à partir de ce moment-là de son alliance vers les nationalistes. Il est de plus en plus dans un discours anti-kurde qui rejoint de plus en plus les nationalistes. Or, curieusement, une des grandes surprises qu'avait amené le régime d'Erdogan, c'était l'ouverture kurde. Il l'avait proclamé en 2009, il l'avait proclamé en 2011, il faisait encore des efforts en 2012-2013, on en parlait encore. Öcalan avait proclamé un cessez-le-feu unilatéral, voire même que les gens du PKK rendent leurs armes et ainsi de suite. On était tout proche de la paix.
Et là, tout s'est effondré.
Tout s'effondre.
Alors, je vous propose justement d'écouter une chanson kurde. C'est une drôle de trouvaille, parce qu'en fait, c'est une chanson qui s'appelle Kesa Kurda, ça veut dire fille kurde. Et figurez-vous que j'ai trouvé une interprétation par un chœur des chorales révolutionnaires qui ont chanté cette chanson à Aix-en-Provence, en bas du cours Mirabeau, en septembre 2016. C'est quand même une drôle d'histoire. On l'écoute.
Gaza,
Voilà donc, au milieu des années 2010, 13, 14, etc., la Turquie face à un danger presque vital, avec l'émergence d'un État, presque un État kurde, à ses frontières immédiates.
En tout cas, d'une théorisation d'un État, il y a tout un discours, effectivement, d'une province où les forces kurdes élaborent aussi un véritable projet, c'est-à-dire qu'il y a des populations turkmènes, il y a des populations arabes, et on met en place des grandes unités avec l'idée que la gestion se fait à partir du local, de la municipalité. Il y a énormément d'assemblées qui sont mises en place et toutes les questions sont traitées par ces assemblées locales.
C'est presque une nouvelle démocratie.
Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un projet Rojava qui a beaucoup intéressé les libertaires, les anarchistes. Il y a eu énormément de productions théoriques ou militantes dans les milieux anarchistes français sur ce projet Rojava. Et ces années-là sont importantes aussi parce que, disons que dans la lutte de la Turquie contre Bachar el-Assad, la Turquie avait pas mal flirté avec les groupes islamistes, soi-disant modérés, mais quand même qui étaient des branches de Al-Qaïda. Contre l'État islamique. Mais on a su ensuite qu'il y avait pas mal de trafic fait avec l'État islamique, qui avait des frontières relativement passoires, qui avait de l'aide qui était apportée. Et 2014 est très importante parce que l'État islamique, ma foi, avec lequel on avait de relativement bons rapports, envahit Mossoul, séquestre tout le personnel du consulat turc, et là où Davutoğlu annonce à la cantonade que ça va se régler dans les quelques jours, ça ne se règle pas. Et l'État islamique maintient fait un marché, et dont on a su après que c'était des libérations, mais en même temps des prises, le soin donné dans des hôpitaux en Turquie, et ainsi de suite, plus le pétrole. C'est-à-dire que l'État islamique pompait du pétrole dans les puits irakiens et le vendait à la Turquie. Et c'est par la Turquie que passait tout le pétrole pompé par ce que les Américains les Russes vont, au moment où ça va friter avec la Turquie, vont bombarder. Ils ont bombardé à la frontière irakienne des files de camions. Ça a été la grande gerbe.
Oui, ah oui,
parce que donc il y avait et donc si vous voulez c'est un tournant, c'est-à-dire que là la Turquie commence à comprendre que l'État islamique c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en même temps se met en place l'histoire kurde. Et donc Kobané c'est le nord de la Syrie, il y a des gens de la Turquie, des jeunes qui se mobilisent, et il y a des forces venant de l'Irak qui passent aussi en Syrie et que la Turquie est obligée de véhiculer par des autobus à l'intérieur de ses frontières, tant la pression internationale et la demande d'aide à cette pauvre ville de Kobané est importante. Donc, si vous voulez, là, l'étau se resserre, et ça va avoir une importance aussi d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a une élection quelque part, et c'est une élection législative, et il se trouve qu'en juin 2015, Erdogan, pour la première fois, perd les élections. Et que son principal challenger, même s'il est infime dans les sports, ce sont les Kurdes. Donc, si vous voulez, le problème kurde devient vraiment très, très important.
Oui, c'est pas seulement extérieur, c'est aussi intérieur.
C'est aussi intérieur. Donc, cette élection remportée en 2015 aurait pu donner lieu à une coalition qui aurait pu faire tomber AKP. Les nationalistes se désolidarise de l'opposition, il passe à l'alliance que nous avons encore aujourd'hui avec Erdogan, et à partir de ce moment-là se déclenche une guerre dans le sud-est de la Turquie, où il y a des opérations, alors on ne peut pas dire militaires, parce que l'armée est un peu suspecte aux yeux d'Erdogan, mais ce sont des milices policières qui vont être de plus en plus engagés et qui vont faire des atrocités dans les villes, au Diyarbakır, d'autres villes, des quartiers du sud-est de la Turquie, de telle sorte que les élections suivantes, celles de novembre 2015, donc vous voyez, il y a à peine quelques mois, redonnent la victoire, parce qu'on est à nouveau rentré dans le cycle d'une guerre civile, ça redonne la victoire à Erdogan. Mais voyez donc quelle manipulation aussi peut avoir cette affaire kurde aussi d'un point de vue intérieur.
Oui, il y a l'établissement d'un véritable état de guerre là dans le sud-est de la Turquie.
Oui, il y a eu tout à fait là. Oui, oui.
Avec la suppression des municipalités, etc.
Voilà.
C'est
voilà.
Ça. Ouais. Mm-hmm.
Et puis on arrive dans les années 2014-2015. Donc on a parlé des élections de 2015. Novembre 2015, et il y a dans ces opérations au niveau de la Syrie, il y a une faute, dirons-nous, de la part de la Turquie qui abat un avion russe en décembre 2015 aux frontières syriennes, et là c'est le clash avec la Russie. Le clash avec la Russie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soutien de la Russie au PKK, soutien à Rojava, et en même temps, on s'aperçoit que les Américains soutiennent aussi les Kurdes. Donc, le gouffre est encore plus profond,
oui, c'est ça.
Pour Erdogan.
Oui, le problème grossit.
Le problème s'épaissit. S'épaissit énormément. Mais, et on reste dans cette épaisseur de plus en plus grande. Alors là, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est la chute de Davutoğlu, celui qui avait donc mis en place tout ce système. C'est lui qui a fait le renversement des alliances au niveau de la Syrie, et c'est lui qui a présidé aussi au fait qu'un avion russe a été abattu. Donc, à un moment donné,
c'est lui qui doit sauter.
Ses choix ne sont pas bons, et ils seront encore moins bons. Alors, il saute en mai 2016, mais là où le choix de Davutoğlu, où là on ne regrette plus du tout Davutoğlu, c'est lorsque il y a le coup d'État manqué en Turquie qui vise Erdogan en juillet 2016. Et où l'Occident affiche une solidarité extrêmement légère, extrêmement ténue vis-à-vis de la Turquie. À partir de ce moment-là, la Turquie se tourne vers la Russie. Elle se tourne vers la Russie, c'est le pays qui ne la condamne pas, c'est le pays qui accepte toutes les propositions de la Turquie. Qui n'accepte pas toutes les propositions de la Turquie, mais qui accepte, disons, un peu de la prendre en charge, et qui réalise assez rapidement l'isolement de la Turquie et la capacité à ce moment-là de la tirer dans son dispositif.
Oui, il n'y a pas le choix, la Turquie,
voilà.
De toute façon.
Et donc ça, c'est le dernier point que je voulais vous présenter. C'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, la diplomatie de la Turquie s'appuie principalement sur la Russie.
Alors on écoute une petite musique quelques instants et après on va passer sur cette question.
Thank you.
Alors nous arrivons donc aujourd'hui donc cette situation donc Davutoğlu est parti. C'est un échec de sa politique. La Turquie est donc dans une situation difficile. La seule puissance possible pour se rapprocher, c'est maintenant la Russie.
Voilà. Alors, comme c'est la Russie, effectivement, à ce moment-là, il faut se positionner ou se repositionner. Et c'est là où cette alliance est très contraignante. Elle est très contraignante, et ça vaut jusqu'à aujourd'hui, elle est très contraignante parce que, d'une part, la Turquie est obligée d'inverser sa position et d'accepter peu à peu qu'un règlement puisse passer par Bachar el-Assad et avec Bachar el-Assad, ce que l'irascible Erdogan a beaucoup de mal à avaler, mais qu'il finit quand même par avaler, surtout après le coup d'État. Mais il faut aussi passer par le fait qu'il y a un lien entre la Russie et l'Iran. Or, l'Iran est quand même une puissance à la fois concurrente et à la fois frontalière de la Turquie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capacités de commerce bilatéral, d'entente bilatérale avec l'Iran. Mais l'Iran est quand même à l'index des États-Unis. Même si Obama renégocie le traité, ce que Trump va à nouveau enterrer hier, donc, mais donc c'est une alliance assez difficile. Et puis il y a pour la Russie, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Auxquels la Turquie doit aussi se plier. Et l'autre élément de la Russie, l'autre point fort de l'intérêt de la Russie, c'est le gaz. Donc on n'est plus du tout dans l'affaire syrienne, mais on est effectivement dans le souci de la Russie de maintenir son monopole sur la fourniture à l'Europe du gaz. Alors, on sait que ça pose problème à travers l'Ukraine et la Biélorussie. On sait qu'il y a tout un dispositif par la Baltique qui alimente l'Union européenne. On sait aussi que l'Union européenne ne veut pas dépendre de la Russie et cherche à mettre en place un système dans le sud, c'est-à-dire un gazoduc qui s'est appelé à un moment donné Nabucco, qui était un projet et qui visait à contourner la Russie et se faire livrer du gaz à partir de l'Asie centrale via le sud, de le faire remonter directement en Europe et de ne plus être dépendante donc de la Russie. Il se trouve que la Russie a essayé de capter ce projet et essaye encore aujourd'hui de capter ce projet pour effectivement avoir et une fourniture par le nord et une fourniture par le sud. Donc la Turquie est très intéressante, en plus du fait que la Turquie est une très grosse consommatrice du gaz russe. Donc il y a tous ces éléments aussi qui rentrent en ligne de compte. Et puis l'autre élément aussi, c'est que la Russie a certainement envie d'avoir une base sur la Méditerranée. Et certainement que le deal avec la Syrie, c'est aussi l'installation d'une base russe sur la Méditerranée. Quel est l'intérêt aussi de la base du Méditerranée? Mais on n'est plus sur le conflit syrien. C'est aussi la découverte de gisements énormes de gaz dans la Méditerranée orientale qui peuvent être soit utiles, soit inutiles, mais en tout cas qui peuvent être aussi concurrents de la Russie. Donc la Russie conserve aussi la possibilité de pouvoir être là, éventuellement, et éventuellement aussi d'aider la Syrie à produire elle-même son gaz pour pouvoir mieux le capter, ainsi de suite. Donc vous avez un entremêlement de tout un tas de choses autour de cette Syrie qui fait que la force de la Russie dans cette alliance est très importante. En plus, ce qu'il faut noter, c'est que dans cette alliance, et c'est assez curieux, la Turquie n'a pas la même position que ses alliés, c'est-à-dire que ses intérêts au niveau de la Syrie ne sont pas du tout les intérêts russes et ne sont pas du tout les intérêts iraniens.
Pour ne pas dire qu'ils sont en contradiction.
Ils pourraient effectivement l'être. Ouais. Et curieusement, c'est une alliance qui fonctionne, enfin qui fonctionne, qui essaye de fonctionner par certains processus, mais c'est une alliance qui est faite donc de concessions événementielles, ponctuelles, des uns aux autres. Mais en même temps, quelquefois, des conflits. Donc, la Turquie, complètement omnibilée par cette histoire d'une province kurde, veut transformer tout ce territoire en zone démilitarisée, où les Kurdes seraient stockés, si je puis dire, mais aussi où les migrants, les 3 millions de migrants syriens qui sont passés en Turquie, pourraient être aussi rétrocédés. Et on aurait là, à ce moment-là, à partir de prise en charge par l'ONU, par les organisations internationales, et ainsi de suite, un immense réservoir, un espace dans lequel on pourrait mettre en place, stocker donc tous ces gens-là, qui sont quand même une charge lourde pour la Turquie. Mais pour cela, la Turquie se lance dans des opérations militaires. Alors il y a eu l'opération contre Afrin, à un moment donné, ça c'est dans les années 2017-2018, la victoire a été lente, les armées turques n'ont pas été aussi performantes qu'on le pensait. Et puis il y a eu aussi une opération un peu plus difficile qui a été Idlib, qui a été un assaut qui a été mené au début 2019 pour mettre en place aussi une... disons, gérer une masse de résistance qui était installée dans le nord-ouest de la Syrie. Mais ça, Idlib est normalement une zone tout à fait accessible aux armées syriennes. Comme il y a eu 3 millions de personnes qui étaient concentrées dans cette région, 3 millions de personnes, si l'armée syrienne attaque, ce sont des gens qui vont de toute façon fuir vers le nord, et qui vont, à ce moment-là, passer en Turquie. Ce qui veut dire que la Turquie va récupérer encore au moins 1 à 2 millions de réfugiés en plus. Ce que, bien entendu, la Turquie ne veut pas.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, on a assez comme ça.
Donc, on a des opérations successives qui se passent, mais qui n'aboutissent pas. Et alors, vous mettez là-dessus les déclarations tonitruantes de Trump, qui, du jour au lendemain, dit que finalement l'État islamique a complètement disparu et que les Américains n'ont plus besoin de rester en Syrie, mais que contredisent les différentes personnes de l'État-major une semaine, deux semaines après, et donc finalement les troupes américaines restent là. On a un scénario qui est extrêmement bousculé et on ne sait pas très très bien vers quoi ça tend et on ne sait pas très très bien effectivement quelles sont les issues possibles. Comme aujourd'hui, l'AKP semble, depuis les élections municipales du 30 mars, un peu en position de retrait, en position de vulnérabilité, on ne sait pas du tout, effectivement, comment ça peut se solder. On a vu que le processus qui avait été mis en place par la Russie, qui était les conférences d'Astana, n'a rien donné. Maintenant... l'Iran est encore plus mis à l'index, mais les États-Unis interdisent donc à tous les pays d'avoir un commerce avec l'Iran. Or, la Turquie importe et du gaz et du pétrole. Que va faire la Turquie ? Alors, actuellement, c'est la question que l'on voit sur les ondes turques. Comment va réagir la Turquie par rapport à ça ? Est-ce qu'on va se soumettre à Trump ? Donc, on est dans
une situation...
scénarios complètement effilochés. Ouais. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile de faire des pronostics.
Donc, pas vraiment de visibilité pour l'instant, pour l'avenir de la Turquie, qui avait trouvé un peu là, dans ses dernières positions diplomatiques, un peu la position d'une puissance qui allait pacifier, etc., etc. Et là, ça marche pas vraiment.
Non, ça marche pas vraiment.
Eh bien, écoutez, Gérard Gorg, je vous remercie infiniment d'avoir répondu aux questions, de nous avoir éclairé sur la politique étrangère de la Turquie. J'espère que vous reviendrez nous voir.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.